situation qui n'est pas des plus simples pour elle à gérer au départ.
Est-ce qu'elle sera incluse dans les discussions autour de l'existentialisme? Parce que tu nous disais, il y avait ce cercle assez fermé, elle a mis très longtemps à y entrer. Est-ce qu'elle sera acceptée à part entière ou est-ce qu'elle sera toujours celle qui connaît Sartre?
Non, non seulement elle va être acceptée à part entière, mais Sartre lui doit beaucoup de ses textes. C'est elle qui va prendre beaucoup d'heures quotidiennement, et une discipline d'une rigidité assez incroyable, pour corriger les textes de Sartre, les remanier, les réécrire. Enfin, il y aura tout un dialogue entre Sartre et elle sur ses idées. Et Sartre va dire de Simone de Beauvoir qu'elle était la seule qui pouvait être son égale dans la discussion. C'est pour ça qu'il va toujours, toujours travailler en collaboration avec elle. Donc, il dit lui-même que beaucoup de ses textes n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu Simone de Beauvoir pour les corriger, pour les remanier, etc.
Donc en fait, il y a une reconnaissance mutuelle de l'apport de l'un à l'autre.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et cette relation est restée permanente. On sait que Simone de Beauvoir s'est raconté à son tour de multiples autres histoires. Il n'y a pas que Jean-Paul Sartre qui a eu de multiples amantes. Elle aussi s'est racontée de nombreuses histoires.
Alors oui, elle aussi aura de nombreuses histoires, mais en fait, à part celle avec Nelson Algren, dont je parlerai plus tard, dont les plus importantes seront à trois. Donc Sartre, Olga, par exemple, ou Natacha plus tard, et Simone de Beauvoir. Donc, ils resteront en lien, même dans ces relations-là. Parce que ces relations, disons, dont elle avait un aspect plus physique, ne seront pas très importantes. Ce seront des amants de passage.
Moi, j'aurais un petit passage à citer qui illustre un petit peu la place et le rôle que Simone de Beauvoir jouait face aux amantes et aux disputes entre Sartre et ses amantes. Parce que Sartre l'utilisait, elle, souvent pour arriver à ses fins, parce qu'il n'avait pas le courage de dire lui-même les choses à toutes ces femmes qui étaient autour de lui et qui ne voulaient pas peiner, même quand il voulait rompre. En fait, il demandait d'une certaine manière à Simone de Beauvoir de faire le travail à sa place. Alors, il y a un petit passage qui est tout à fait... Enfin, moi, il me semble tout à fait révélateur sur cette situation très bizarre et très spéciale qu'avait Simone de Beauvoir par rapport à lui et ses autres femme. Elle dit comme ça: il faut que vous compreniez ce que je devais faire pour Sartre quand il s'agissait des femmes. C'était un homme très craintif qui avait un ego extrêmement sensible et ne savait dire non à personne. Si une femme lui demandait quelque chose, il lui promettait la lune. Ensuite, il venait me trouver. Cela commençait par Vanda. Ou d'autres femmes qui traversèrent sa vie, veut. Et puis il me disait qu'il allait faire exactement ce qu'elle voulait, ce que je ne prenais jamais au sérieux parce qu'il enchaînait aussitôt. Castor, tâchez de savoir où était le problème. Ce qu'il voulait dire en réalité, c'était: voici ce que je veux vraiment que vous fassiez, sortez-moi de ce pétrin. Et comme j'étais solide et que je me fichais de ce que ces femmes pensaient de moi, j'étais la seule à pouvoir les remettre à leur place. Je n'avais pas le beau rôle. Elle me mettait tout sur le dos et lui allait se désoler avec elle en jurant qu'il ne pouvait rien faire, que c'était la faute de Castor, qu'il était navré. En fait, il était ravi que je l'ai tiré d'affaire. Voilà. Castor, c'est le surnom qu'on a donné à Simone de Beauvoir dans le groupe et qu'elle a gardé toute sa vie pour eux.
Voilà justement, Castor vous, sortez-moi de ce pétrin, ils se vouvoyaient donc.
Ah oui, ils se sont toujours vouvoyés, oui.
Pourquoi cette distance? On a une explication de ce vouvoiement de...
Je crois que c'était d'époque essentiellement, je crois que ça se faisait à l'époque tout à fait naturellement. L'auteur ne s'attarde pas sur le pourquoi de ce vouvoiement, mais il m'a semblé que c'était surtout une convention tout à fait habituelle. Juste pour préciser, le surnom de Castor lui sera donné grâce à cause de son énorme capacité de travail. Et c'est René Maheu qui va dire qu'elle travaille toujours comme un castor. Et ça va lui rester définitivement pour le reste de sa vie. Tout le monde l'appellera Castor dans ses amis intimes.
Ah voilà, je me demandais qui l'appelait Castor, donc ses amis intimes.
Ce qu'ils appelaient la famille. C'est-à-dire leur groupe d'amis qui s'étaient choisis. Ils vont le nommer la famille et la famille l'appellera toujours Castor.
Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce passage-là de sa vie, c'est pas un passage, justement? C'est en fait quelque chose qu'on va retrouver tout au long de ce qu'on va continuer à raconter de sa vie. En fait, il n'y a pas un moment où elle participe activement au groupe existentialiste, mais ça va durer longtemps. Mmh. Et quand elle va écrire Le Deuxième Sexe, quand elle va rentrer dans les mouvements féministes, on retrouvera ce travail tout au long de son existence.
Oui, bien que... Je dirais quand elle approche de la cinquantaine, ses amitiés personnelles à elle changent un peu. C'est plus tout à fait les mêmes que celles de Sartre. Elle acquiert une certaine indépendance, je dirais, par rapport à lui, à ce moment-là. Mais elle restera. C'est une liaison assez extraordinaire qu'ils ont tous les deux. Bon, ils forment un couple professionnel, d'intellectuels. Et ça, disons, ils y seront fidèles l'un et l'autre jusqu'à la fin. Sartre, entre autres, parce qu'il a, comme l'a dit Paola, il a besoin d'elle parce qu'elle est vraiment son censeur. C'est elle qui... Il lui soumet les idées et si elle pense que l'idée n'est pas bonne, il ne continue pas. Donc elle contrôle tout ce qu'il fait. Elle écrit pour lui. Elle est un élément absolument indispensable de toute son activité intellectuelle à lui. Et ça, ce sera jusqu'à la fin, bien que dans les dernières années, il se soit plus confié à sa fille adoptive. Et qu'il l'ait un petit peu laissé de côté, elle. Mais ça, c'est vraiment dans les toutes dernières années de sa vie. En tout cas, face au public, ils ont toujours gardé ce rapport très étroit, hein, intellectuel qu'ils avaient les deux. Ils ont continué à voyager ensemble, à être en public ensemble. C'était vraiment un couple, même s'ils n'étaient plus un couple... vraiment plus sur le plan physique. Après une dizaine d'années, c'était fini de toute façon, et puis peu sur le plan affectif d'une certaine manière, si on peut dire, mais sur le plan intellectuel, ils sont restés pendant 50 ans fidèles l'un à l'autre et indissociables pratiquement.
Elle a vécu avec lui? Jamais. Habité dans la même maison?
Jamais, ils n'ont jamais vécu d'une manière commune. Ils ont vécu, bon, pendant les guerres, ils ont vécu dans des chambres d'hôtel séparées. Ils ont beaucoup vécu, en fait, dans les appartements des amis, dans les chambres d'hôtel, et quelquefois chez la mère, chez le père, chez l'amante. Enfin, ça variait. Il y avait aussi beaucoup chez Madame Morel, qui fut une personne importante pour Sartre, et qui a été longtemps son amante, et qui les a hébergés quand ils avaient besoin d'hébergement, etc. Donc c'est vrai qu'il en avait tellement d'amantes qu'il y avait beaucoup d'appartements à disposition.
Il faut dire qu'il les entretenait aussi, oui. Toutes ces femmes.
Financièrement
parlant. Et Sylvine de Beauvoir également.
Absolument. Jusqu'au moment où elle a été assez publiée et assez bien vendue, il faisait une espèce de caisse commune dans laquelle ils mettaient toutes leurs ressources, mais c'était surtout Sartre qui l'alimentait parce que c'est lui qui est devenu célèbre le plus vite et qui a eu le plus, disons, de ressources le plus vite. Puis il a eu aussi un petit héritage de sa mère, etc. Mais il entretenait une grande partie des gens de la famille, comme ils appelaient.
Et une de leurs tâches communes, c'était entre autres d'écrire dans les temps modernes, cette revue mm-hmm. qui a été le support médiatique des existentialistes pendant longtemps, ou c'est beaucoup plus tard?
C'est après la guerre.
C'est après la guerre, ça, oui.
Après la Deuxième mm-hmm. Guerre mondiale.
D'accord. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, ça va être aussi une date très importante pour Simone de Beauvoir et pour les femmes, parce que 1948, c'est la sortie du deuxième sexe, ce livre qui, comme tu le disais tout à l'heure, Evelyne, va être un petit peu la Bible des femmes. Mais juste avant d'en parler, je vous propose une chanson d'une Américaine, que peut-être Simone de Beauvoir a rencontrée, c'est Malvina, qui chante à propos des femmes aux États-Unis, mais très tôt, dans les années 60 déjà. Et elle pose la question, mais Rosie Jane, puis c'est le titre de la chanson. Ah, tu es de nouveau enceinte. Est-ce que tu vas pouvoir vraiment t'occuper de 4 enfants encore? Qu'est-ce que c'est que l'amour, Rosie Jane? Et c'est une chanson qu'elle dédie à ses sœurs tout en disant que s'il y a un homme qui écoute, il a qu'à être attentif.
This song is addressed to my sisters. Any man who is present may listen. Any priest, any public official, any physician. But it gives him no license to touch us. We make the decision. Me and Lydia, Rosie and Josie and Eve. we handle these matters ourselves, you'd better believe, or you'd better leave. Rosie Jane, what in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love? I'd had an extra shot on top of what I got. In a word, I was drunk, so was Bill. At least I think it was Bill. And I forgot to take my pill. I guess it was God's will. Rosie Jane, are you pregnant again? Rosie Jane, you can hardly take care of the four you had before. What in heaven's name were you? Is it love? When that baby is a child, it will suffer from neglect, be picked upon and pecked, and run over and wrecked, and its head will be crowned with the thorn. But while it's inside her, it must remain intact, and it cannot be murdered till it's gone. Rosie Jane, are you pregnant again? Rosie Jane, you can hardly take care of the four you had before. What in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love?
Malvin qui nous chantait une chanson des années 55 déjà sur l'avortement. Evelyne, comment a commencé ou quand a commencé à écrire Simone de Beauvoir elle-même, pour elle-même, c'est-à-dire pas pour le compte de quelqu'un d'autre comme Jean-Paul Sartre?
Alors, elle dit quelque chose comme ça. La littérature apparaît lorsque quelque chose dans la vie se dérègle. Et ce qui s'est déréglé, ça a été la guerre qui est arrivée, la Deuxième Guerre mondiale. Et Simone de Beauvoir, qui au fond s'était jusque-là peu préoccupée, là elle a une trentaine d'années, hein, puisqu'elle est née en 1908, peu préoccupée de ce qui se passait au fond dans la vie publique, très préoccupée par la vie de l'esprit, mais peu par la vie de ses concitoyens, finalement, et puis de l'histoire autour d'elle, ben, elle a été, au fond, surprise. J'avais pas pensé que ça pouvait arriver, la guerre. Elle avait vraiment... bien sûr, d'autres gens l'avaient vu venir, mais elle était une femme très peu engagée et très peu consciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle avait, par exemple, jusqu'à la guerre, absolument rien vu du problème juif, par exemple. Juif à rien, pour elle ça disait rien, elle n'avait aucune idée. Et puis comme Sartre était à demi-juif et a dû faire attention pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est rendue compte à cause de lui et de sa situation de ce que ça signifiait ce problème juif. Mais par exemple ça non plus, elle avait rien vu. Et donc la guerre, ça va être un choc pour elle, et puis ça va vraiment la vie se dérègle, et puis elle se met à penser à d'autres choses, et puis elle se met à écrire. Alors elle va écrire L'Invité, c'est son premier livre, et qu'elle met longtemps pour écrire, elle met 3 ans pour l'écrire, et elle a du temps pour elle, parce que Sartre est absent, il est à la guerre. Et bon, alors elle est toute seule, elle travaille dans une école, mais enfin elle a beaucoup de temps. La plupart des amis, les hommes, sont à la guerre, et elle est séparée. Alors, dans cette solitude nouvelle, elle se met à écrire. Et puis elle écrira un autre roman, disons, dans le cadre historique et un peu la résistance, qui s'appelle Le sang des autres. Et puis à la fin de la guerre, ben voilà, Sartre et elle sont au fond deux auteurs publiés qui commencent à être connus en France. Mais bon, il reste des bourgeois, des intellectuels, des gens qui ont encore peu de grandes relations publiques. Mmh. Ils sont très proches de leurs amis, de la famille, mais ils ont encore peu de contact avec d'autres écrivains, des artistes, etc., comme ils auront par la suite. C'est après la guerre que vont se développer toutes ces... qu'ils vont acquérir une grande renommée sur la scène française, puis qu'ils vont commencer à sortir beaucoup et se faire voir avec toute l'intelligentsia française de l'époque.
On va d'ailleurs beaucoup leur reprocher d'avoir fait leur carrière pendant la guerre. C'est une chose qui est un reproche.
Et leur rapport politique, on sait que plus tard, ils seront très proches des communistes, ils iront à Cuba, ils iront en URSS. À cette époque-là, c'est pas encore, ça ne fait pas encore partie de leur vie, cet engagement.
Je ne crois pas. Je crois qu'on a du mal à se rendre compte. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup frappé en lisant le livre. Simone de Beauvoir était véritablement dans une tour d'ivoire. Je veux dire, elle ne savait même, elle s'est même pas rendue compte jusque très tard que les femmes n'avaient pas la même place dans la société que les hommes. C'était quelque chose qu'elle ne voyait pas du tout. Et c'est vraiment, comme le disait Evelyne, que c'est vraiment au moment de la guerre qu'elle va se rendre compte qu'il y a une société, qu'il se passe des choses à l'extérieur.
Et c'est là qu'elle prendra conscience d'un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il y a un événement, d'abord, Paola, une rencontre aussi très importante qui va avoir des influences plus tard. Entre autres, on vient de parler des États-Unis avec la chanteuse Malvin. Et elle va avoir un certain nombre de liens avec les États-Unis, mais entre autres parce qu'elle y fait une rencontre amoureuse très importante pour elle.
Oui, tout à fait. C'est dans l'année 1947 qu'elle va rencontrer Nelson Algren, qui est un écrivain qui n'a pas une grande réputation, mais qui a écrit déjà deux, trois bouquins, et qui habite Chicago. Et ça va être le coup de foudre immédiatement. Elle y va parce qu'elle est invitée pour donner des conférences. Elle va rencontrer Nelson Algren et ils vont devenir amants tout de suite, d'une manière très, très immédiate. Et c'est une relation qui va durer jusqu'au début des années 50, donc vers à peu près 1952, jusqu'à leur rupture où Nelson Algren va se remarier avec une autre femme en 1953. Non pas qu'il se soit marié avec Simone de Beauvoir.
Oui, on a été croire. Et pourquoi cette rupture? Elle a vécu un moment aux États-Unis avec lui, il vivait en France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Sartre qui a hurlé de jalousie? Que s'est-il passé?
Alors Sartre n'hurlera jamais de jalousie tout au long de leur vie, ça n'existe pas chez Sartre. Non, ce qui va se passer, c'est que elle va aller aux États-Unis pendant d'abord 2 mois, puis ensuite 5 mois, puis revenir en France. Et lui va venir une fois en France et va repartir aux États-Unis. Et assez rapidement va se poser la question de la part de Nelson Algren, pourquoi restes-tu en France? Qu'est-ce qui t'y retient? Et il n'arrivera jamais à comprendre que le rapport de Simone de Beauvoir avec Sartre soit privilégié sur son rapport avec Nelson Algren. C'est quelque chose qui le blessera lui profondément et qui conduira à la rupture entre ces deux-là. Pour en dire un peu plus, là où la rencontre en fait a été vraiment très importante pour Simone de Beauvoir, c'est que c'est là qu'elle a fait connaissance avec les États-Unis. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de préjugés sur les États-Unis. Elle pensait que les Américains étaient tous des bourgeois qui ne rêvaient que de s'acheter leur petite maison et d'aller au club de golf et puis des choses comme ça. Et puis Nelson Algren va lui faire connaître les États-Unis plus des bas-fonds, des bars, des docks. Va la balader un peu dans un États-Unis qu'elle ne connaît pas. Et ça va contribuer à ce qu'elle prenne conscience d'une certaine forme de société non bourgeoise, non fortunée, non, enfin tout un tas de choses. Et ça va être un grand déclencheur aussi, comme on le verra probablement pour le deuxième sexe. Et elle va aussi se rendre compte de la condition féminine aux États-Unis, qui n'est pas ce qu'elle pensait. Elle pensait que les femmes, on lui avait dit que les femmes étaient libres aux États-Unis, qu'elles étaient beaucoup plus en avance. Et puis elle va se rendre compte que c'est pas le cas. elle va se rendre compte qu'aux États-Unis ça se passe pas comme ça. Et en même temps, le mouvement féministe, il y a déjà des femmes qu'on appelle féministes aux États-Unis, et elle va faire la rencontre de certaines femmes féministes qui vont aussi lui permettre de se rendre mieux compte des choses.
Parce que tu veux dire qu'à ce moment-là, elle se préoccupe déjà de la place des femmes dans la société, dans la mesure où, je sais pas, elle dit par exemple que quand elle était à l'université, en tant que philosophe, elle avait une place importante, mais parce qu'en fait, elle était une des rares femmes à être à ce moment-là dans les facultés, mm-hmm. et que donc elle était tellement exceptionnelle que c'était facile qu'on l'accepte, puisqu'elle était quasi unique. Alors qu'effectivement, elle reconnaîtra que la place des femmes plus tard est bien plus difficile, parce qu'elles sont nombreuses, et que donc tout à coup, les hommes ont peur qu'on leur prenne leur place. Mm-hmm. À cette époque-là, elle, personne n'avait peur d'elle comme prenant la place des hommes. Elle était déjà consciente d'un certain nombre de choses comme ça à ce moment-là ?
À ce moment-là, oui, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est juste après la guerre. C'est vraiment le processus où elle commence à prendre conscience de phénomènes sociaux et du rôle de la femme dans la société. Et c'est vrai que les États-Unis vont être un déclencheur très important. Parce qu'elle s'attendait à avoir une femme libérée, à avoir une femme qu'on lui avait décrite et qu'elle ne trouvera pas là-bas.
Elle participera à des mouvements comme les suffragettes, par exemple ?
Non.
Elle prêtera son nom. Elle sera d'accord de faire un peu l'effigie pour certains mouvements féministes. Mais elle,
non, mais ce n'est pas les féministes. Hein, c'est avant les femmes qui demandent le droit de vote. Mmh. Donc, c'est encore un mouvement assez particulier qui est effectivement dans le...
L'engagement, le militantisme, c'est pour plus tard. Hein. C'est voilà. Après 1968, vraiment. Mmh.
Alors comment va-t-elle tout à coup décider d'écrire ce livre qui sera considéré en fait par beaucoup de femmes comme étant la Bible du féminisme ? Parce que qu'est-ce qui fait que tout à coup elle se penche comme ça sur ce deuxième sexe, sur l'analyse des places de la femme dans la société, Evelyne ?
Alors elle avait une amie, Colette Audry, qui est une femme qui a beaucoup plus fait de politique. Et cette femme avait toujours dit qu'elle écrirait un jour un livre sur la condition des femmes et sur leur exploitation. Et Simone de Beauvoir disait toujours « Oh, moi, j'ai pas de problème en tant que femme, je vois pas là la matière à faire un grand ouvrage. » Et puis comme ça, elles avaient toutes les deux passé une partie de leur vie à Rouen, enfin quelques années d'enseignement, donc Colette Audry et Simone de Beauvoir. Et un jour, vers 1947, Simone de Beauvoir rencontre Colette Audry dans un café et lui dit « Ben vous savez, ce livre que vous vouliez toujours écrire sur les femmes, eh ben je crois que c'est moi qui vais l'écrire. Vous n'avez pas le temps, mais moi je vais l'écrire. » Et Colette Audry se dit « Ah, eh bien, mon amie qui avait toujours soutenu que sa vie en tant que femme était égale à celle d'un homme et aussi libre qu'elle, eh bien, elle a sans doute buté sur un sérieux obstacle qui l'a amenée à changer d'avis, hein, si elle se décide à faire ce livre. » Parce que Colette Audry, elle, comme elle s'était mise dans la politique très jeune, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas le droit de vote, par exemple, ce qui lui paraissait parfaitement injuste. Jusqu'à 1947, les femmes n'avaient pas le droit de vote en France. Et puis, souvent, elle se rendait compte des obstacles contre lesquels elle butait. Donc, elle avait une conscience aiguë de cette infériorité de la femme très, très tôt. Mais Simone de Beauvoir, qui plaçait tout en fonction de sa relation avec Sartre, qui était une relation de parfaite égalité, hein, comme on l'a dit, où Sartre la reconnaissait intellectuellement aussi forte et même bien plus forte que bien des hommes. Comme elle plaçait tout dans ce cadre-là, elle n'avait pas le sentiment d'être inférieure. Mais quand elle... la guerre étant passée, et puis qu'elle a eu envie... comme elle dit, de s'expliquer sur elle-même un jour, elle s'est rendue compte que la première chose qu'elle devait dire, je suis une femme. Elle devait commencer par là. Puis c'est là où que sa recherche a commencé. Mais elle n'a pas pensé tout de suite faire un grand ouvrage comme celui qu'on connaît. Elle a commencé à faire un petit essai qui aurait été comme une sorte de credo sur elle-même. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de critiques contre l'existentialisme et contre Sartre, contre elle-même. On l'appelait la grande sartreuse, ou bien Notre-Dame de Sartre, d'une manière comme ça, un peu péjorative. Elle a eu envie d'expliquer qui elle était, elle, en tant que femme, en tant qu'écrivaine et en tant qu'existentialiste. C'était un peu ça au départ. Elle voulait dire, voilà, moi je suis ça, je crois ça, etc. Puis elle se disait que peut-être ça aiderait d'autres gens à comprendre mieux ce que c'était que l'existentialisme aussi, puis à aimer Sartre. Parce qu'au fond, c'était ça son grand problème, qu'on ne l'aime pas et qu'on ne l'admire pas autant qu'elle-même le faisait.
Mais elle dira plus tard qu'elle considérait que ce livre a été sa première action féministe, en quelque sorte, dans le sens où elle a quand même eu l'impression qu'en s'affirmant comme femme, elle faisait quelque chose d'important dans la société du moment. Quoi.
Oui, parce que alors elle est passée de cette idée d'un petit essai à un essai plus grand, puis une chose plus compliquée. Et puis finalement, elle s'est décidée à faire une enquête vraiment assez exhaustive sur la condition des femmes. Et elle s'y est mise, comme tout ce qu'elle faisait, avec énormément d'ordre et de méthode. Elle a été fouillée dans les archives, elle a beaucoup lu, elle a lu les carnets, les journaux intimes, toute l'œuvre de Virginia Woolf. Enfin, elle est allée vraiment, elle a su, alors qu'elle n'était en fait pas du tout préparée pour faire ça. Elle y arrivait très tard, hein, à sa conscience de femme peut-être inférieure. Elle est allée, elle a su aller aux bonnes sources, aux bons documents, et elle a su créer un ouvrage qui, quand on pense que c'était qu'une petite Française qui venait d'un milieu social et intellectuel très, très délimité, puis qui n'avait pratiquement aucune connaissance des idées féministes de l'époque en France et à l'étranger. C'est presque incroyable ce qu'elle a réussi à faire comme volume et la renommée que ce livre a eue après. Il a été traduit assez vite en anglais et publié aux États-Unis. Il y a eu, bon, évidemment, ça a soulevé un tollé parce que beaucoup de critiques. Beaucoup d'hommes contre elle, beaucoup d'injures, beaucoup de lettres aussi de félicitations de femmes qui se retrouvaient. Elle a sûrement pas eu l'idée que ça serait une chose aussi importante, j'ai l'impression, au moment où elle l'a écrite. Mais le fait est que bon, ça a eu énormément de répercussions. Et la relation à Algren a eu beaucoup d'importance dans la mesure où c'est lui qui lui a fait voir la relation qu'on pouvait faire entre la situation des Noirs aux États-Unis et la situation des femmes et la notion de ségrégation. C'est lui qui lui a montré ce que ça signifiait être inférieur, être ségrégué, etc. Et il a pris l'exemple des Noirs et ça, elle a compris. Et puis elle est devenue très amie d'un couple mixte. Hélène et Richard White, et elle a bien observé, disons, les difficultés d'un couple noir-blanc aux États-Unis et en France, parce qu'après, ils sont venus vivre en France. Et tout ça, elle a beaucoup aidé à expliquer cette condition des femmes qui est l'autre par rapport à l'homme. Alors là, il y a on peut parler au fond de la manière dont elle a choisi le titre. Elle pensait d'abord l'appeler l'autre sexe.
Donc parfois même ça a été traduit.
Et ça a été souvent traduit comme ça. Mais elle, en fait, elle l'a appelé le deuxième sexe parce que elle raconte, il y a une anecdote là-dessus en disant que on appelait les PD le troisième sexe. Et alors, elle l'a dit, les femmes c'est sûrement le deuxième. Donc appelons le livre comme ça, le deuxième sexe.
L'enfant de toi n'a pas de nom, il est encore une question. L'enfant de toi n'a de prénom qu'une promesse à mes sillons. L'enfant de toi cherche sa route et je lui montrerai tout bas ce nid d'eau tiède sous la voûte à la mesure de